إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons étudier le troisième hadith. Nous allons étudier le troisième hadith du livre intitulé « Bahjatu Qulub al-Abrar wa Qurratu Uyun al-Akhyar fi Sharhi Jawami' al-Akhbar » du Cheikh Al-Allama Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'fi rahimahullah ta'ala. ويقول الشيخ رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Donc la traduction du hadith que nous cite le Cheikh, et qui est un hadith qui est rapporté par Muslim en son authentique, est le suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la religion est conseil, la religion est conseil, la religion est conseil. Pour qui, ô prophète? Pour qui, ô prophète d'Allah? Il dit: pour Allah, pour son livre, pour son prophète, pour les dirigeants des musulmans ou pour les imams des musulmans et l'ensemble des musulmans. Et l'ensemble des musulmans. Donc le Cheikh, il nous dit par rapport à ce hadith, en commençant l'explication, il nous dit en fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété la première phrase qui est Ad-dinu an-nasiha, il l'a répété trois fois. Il l'a répété trois fois. Et ça, on sait que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est souvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait les mots trois fois. Et dans ce contexte-là, le cheikh nous dit en fait qu'il l'a répété trois fois afin d'indiquer à sa communauté que la religion, yani hadha ad-din, que la religion est concentré dans ce mot, que la religion est concentrée dans ce mot, ou que la religion, ou que ce mot, c'est-à-dire ce mot, le mot conseil, an-nasiha, englobe toute la religion. Que ce soit la religion par rapport à son apparence, par rapport à son intérieur, ou par rapport à ce qui est, tout ce qui est caché. Naam, yani, vahiru wa batinu, vahiru wa batinu. On peut dire aussi que la religion se résume en ce mot qui est le conseil. La religion se résume en ce mot qui est le conseil. Donc c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'explique le shir, il répète en fait cette phrase-là trois fois, d'où en fait l'importance de la situation. Ensuite, il va nous dire qu'est-ce que le conseil. Qu'est-ce que le conseil par rapport à la religion de l'islam. Et qu'est-ce qu'a voulu dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par ce terme ou par ce mot, le conseil. En fait, il nous dit, c'est accomplir de manière parfaite ces cinq devoirs. C'est d'accomplir de manière parfaite ces cinq devoirs. C'est ça le conseil. Donc si maintenant on nous demande qu'est-ce que la signification de ce terme ou de ce mot, an-nasiha, par rapport à la religion, alors on répondra que c'est accomplir de manière parfaite ces cinq devoirs. Quels sont ces cinq devoirs? En fait, ces cinq devoirs, il va nous les citer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la suite du hadith. C'est un devoir, le premier devoir qui est envers Allah, qui est envers Allah. Le deuxième devoir qui est envers son livre, c'est-à-dire le Coran. Et aussi le troisième devoir envers son envoyé, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdullah. Et ensuite, le quatrième devoir est le devoir envers les dirigeants des musulmans ou les imams. Et ensuite, le cinquième devoir, c'est le devoir envers l'ensemble des musulmans. Donc, cinq devoirs. Le conseil, c'est accomplir de manière parfaite ces cinq devoirs. Ensuite, le cheikh, il va nous expliquer de façon détaillée quels sont en fait ces devoirs même. Donc, il nous dit, dans un premier temps, ou dans le premier conseil, c'est le conseil pour Allah Azza wa Jal. Le conseil pour Allah Azza wa Jal. An-nasihatu lillah. Yani, lillah. Pour Allah. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ça? Qu'est-ce que la signification du conseil pour Allah? Qu'est-ce que la signification du conseil pour Allah? Il nous dit, le chien, en fait, c'est reconnaître, dans un premier temps et avant tout, c'est reconnaître l'unicité d'Allah. Reconnaître l'unicité d'Allah. Et donc, son unicité, comme on l'a vu dans les cours de Tawhid, elle se divise en trois catégories. L'unicité qui est propre à l'adoration, et l'unicité qui est propre à la souveraineté d'Allah Azzawajal, et l'unicité qui est propre au nom et aux attributs d'Allah. Donc en fait, c'est reconnaître cette unicité, reconnaître en détail ces trois catégories de l'unicité. Et donc par rapport à ça, le terme reconnaître, et c'est le terme aussi comprendre et avoir la foi en l'unicité d'Allah Azzawajal et appliquer ce qui dépend de cette unicité. Donc là en fait, bien sûr, on ne va pas détailler ça, en fait ça prendrait beaucoup de temps, et dans un deuxième temps il faut savoir que ça revient aux cours qui sont faits par rapport au Tawhid. Donc d'où l'importance d'étudier en fait l'unicité d'Allah Azzawajal. On voit que lorsqu'on étudie l'unicité d'Allah Azzawajal, qu'est-ce qu'on va faire? On va en fait rentrer dans, où on va en fait accomplir ce premier devoir qui est en fait le conseil pour Allah Azzawajal. On va accomplir ce premier devoir. Donc la première chose, c'est reconnaître l'unicité d'Allah Azzawajal. Le shir'i nous dit aussi, ce qui rentre dans ce devoir, c'est de revenir à Allah de manière continue. Revenir à Allah de manière continue. Comment revenir à Allah de manière continue? Dans un premier temps, demander à Allah avec espoir et peur toute chose. C'est en fait demander à Allah, toujours revenir à Allah Azzawajal. Toujours, lorsqu'on a besoin de quoi que ce soit, il faut le demander à qui? Il faut le demander à Allah Azzawajal avant toute chose, c'est-à-dire par les invocations. Que ce soit avec espoir, qu'on le demande, on demande ces choses-là avec espoir. Et on demande aussi, comme il nous dit le shir, on le demande aussi avec peur. C'est-à-dire, rahbatan wa rahbatan. Ensuite, il nous dit également, c'est se repentir à Allah. C'est-à-dire se repentir à Allah de ses péchés et demander pardon sans interruption. Tout le temps, à tout moment. Donc en fait, le musulman, le croyant, lorsqu'il veut accomplir son devoir par rapport à Allah, qu'est-ce qu'il doit faire également? Après avoir reconnu l'unicité d'Allah, il doit revenir à Allah Azzawajal. C'est-à-dire donc demander à Allah Azzawajal avec espoir et peur, et dans un deuxième temps, se repentir à Allah Azzawajal de ses péchés. Et ça de façon continue. Se repentir tout le temps à Allah Azzawajal de ses péchés. Qu'ils soient en fait grands ou qu'ils soient petits. Qu'ils soient grands ou qu'ils soient petits. Parce que l'homme, en fait, l'homme, de par sa propre nature, va tomber dans les péchés. Va tomber dans les péchés. Les causes de ce manque, ou les causes, en fait, qui vont faire qu'il va tomber dans ce péché, le chéri nous dit, en fait, c'est le fait qu'il se laisse aller, ou accomplit pas parfaitement certaines obligations. Donc le fait de se laisser aller, ou de n'accomplir pas parfaitement certaines obligations. Et aussi le deuxième point, qu'il touche parfois, ou qu'il tombe parfois, namarfouane, qu'il tombe parfois dans certaines interdictions. Donc en fait, toutes ces choses-là vont demander à l'homme qu'il se repente à Allah Azzawajal pour qu'il advienne. Par rapport à ce repentir, donc un repentir qui va être systématique, et également le fait de demander à Allah Azzawajal le pardon par rapport au manque qu'il a à son devoir, c'est-à-dire qu'il ne complète pas ses devoirs envers Allah Azzawajal de façon parfaite, et fayahsul minhum at-taqsir, ce qu'on appelle at-taqsir, c'est en fait le manque à son devoir, at-taqsir. Donc le shir par rapport à ça, il dit le fait de se repentir à Allah de façon systématique et de lui demander dans un deuxième temps pardon, ça va en fait compléter ces deux points, c'est-à-dire ces deux choses. La première chose qui est en fait le fait de se laisser aller ou de ne pas accomplir certaines obligations, et aussi le fait qu'il va tomber, l'être humain, ou c'est-à-dire l'homme, va tomber de temps en temps dans certaines interdictions. Donc le fait de se repentir de manière systématique et de demander de façon continue le pardon d'Allah Azza wa Jal, ça va en fait compléter, ou ça va en fait enlever cette adhan naqs, c'est-à-dire cette imperfection. Et en fait, on voit que par rapport à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit que le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah Azza wa Jal plusieurs fois pardon dans la journée. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا حديث qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique, et c'est un hadith de Abu Huraira. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم nous indique dans ce hadith qu'il demandait pardon à Allah عز وجل et qu'il revenait à lui. إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم, c'est-à-dire dans un seul jour, plus de 70 fois. Plus de 70 fois. Donc là, maintenant, la personne, elle peut comparer en fait son état par rapport à l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien de fois la personne demande pardon à Allah azza wa jalla dans la journée. Donc ça, en fait, c'est cette demande de se repentir, cette demande de pardon va en fait enlever ce qui advient de la personne par rapport au manque dans ses obligations et par rapport au fait qu'il tombe dans certaines interdictions. Donc en fait, c'est ce que le dit le cheikh nous apprend par rapport au premier devoir, qui est le conseil pour Allah Azza wa Jal, Lillahi Ta'ala. Ensuite, le deuxième conseil, c'est le conseil pour son livre, ou le devoir du musulman qu'il doit accomplir envers le livre d'Allah Azza wa Jal. Raja fil hadith, Lillahi, ça c'est en premier temps, et en deuxième temps, Wali Kitabihi, c'est-à-dire le Coran. Donc en fait, le shir nous dit, dans un premier temps, il faut l'apprendre et réfléchir sur la signification de ces versets. Donc lorsque j'accomplis mon devoir envers le livre d'Allah Azza wa Jal, c'est dans un premier temps que j'apprends le Coran, l'apprendre par cœur, apprendre ces versets, et ensuite réfléchir sur la signification de ces versets. Yani at-tadabbur, at-ta'ammul. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est apprendre son vocabulaire et ses significations. C'est-à-dire les vocabulaires que l'on va trouver dans les versets du Coran. Donc, dans beaucoup de versets du Coran, Allah Azza wa Jal va utiliser des mots que la personne va avoir du mal à comprendre. Donc, par rapport à son devoir qu'il doit faire, qu'il doit accomplir envers le livre d'Allah Azza wa Jal, il doit essayer de comprendre et s'efforcer de comprendre les vocabulaires du Coran, afin que la signification des versets lui soit claire. Ensuite, il dit dans un troisième temps, c'est produire des efforts dans l'application de son contenu sur soi-même et sur les autres. Produire des efforts dans l'application de son contenu sur soi-même et sur les autres. C'est-à-dire que il ne suffit pas aux musulmans qu'il apprenne le Coran et qu'il réfléchisse sur la signification de ces versets à apprendre et qu'il apprend aussi son vocabulaire. Il faut également qu'il le mette en pratique, qu'il mette en pratique en fait ce qui est contenu dans le Coran. Il le met en pratique par rapport à lui-même et il le met en pratique par rapport aux autres. C'est-à-dire les choses qu'Allah Azzawajal lui demande de faire et qui reviennent à lui-même, il doit les faire. Et les choses qu'il lui demande et qui reviennent par rapport aux relations humaines, c'est-à-dire les relations que la personne, le musulman, doit avoir avec les autres, il doit également les faire. Donc c'est ça la signification de l'application de son contenu sur soi-même et sur les autres. Produire des efforts dans l'application de son contenu sur soi-même et sur les autres. Et c'était en fait le chemin ou la méthode employée par les salaf et plus particulièrement par les sahaba, c'est-à-dire les compagnons. Comme nous l'apprend certains des compagnons, qu'ils apprenaient en fait un certain nombre de versets, comme par exemple 10 versets, et qu'ensuite ils les apprenaient par cœur, ils essayaient de réfléchir sur la signification de ces versets-là, et ensuite ils appliquaient le contenu de ces versets. Donc ça c'était en fait minhaj sahaba, c'est-à-dire la méthode des compagnons par rapport aux devoirs qu'ils accomplissaient envers le livre d'Allah Azzawajal. Donc ça c'est pour ce qui est du conseil pour son livre, l'Ikitabi. Ensuite le conseil par rapport au prophète, ou pour le prophète. Donc en fait, comme on le dit, on le répète, c'est en fait le conseil pour le prophète, c'est en fait les devoirs que l'on doit avoir envers le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Dans un premier temps, le shir nous dit, c'est avoir foi en lui et l'aimer. Donc ça, c'est la première chose. La première chose que l'on doit accomplir en termes de devoir par rapport au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Avoir foi en lui, al-iman ou bihi, et l'aimer, c'est-à-dire avoir l'amour pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il nous dit, le shir, rahimallahu ta'ala, faire prévaloir sa personne, que ce soit par rapport à son amour propre, ou par rapport à sa parole, ou par rapport à ses droits, sur toute autre chose. Donc c'est faire prévaloir la personne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à son amour, par rapport à ses paroles, par rapport à ses droits, sur toute autre chose. Donc ça, c'est un point aussi qui est essentiel par rapport au devoir que chaque musulman doit avoir envers la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc en fait, lorsqu'il dit par rapport à sa propre personne, c'est-à-dire la propre personne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il rentre dedans dans cette nasiha, ou dans ce devoir, le fait de toujours faire précéder la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur n'importe quelle personne. Que ce soit même parmi les grands imams des écoles de pensée. Et ça, en fait, c'est la méthodologie qu'ont employée à Salaf. C'est-à-dire qu'ils ne mettaient jamais en contradiction une parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec une parole d'un autre que lui. Que ce soit un compagnon, que ce soit un tabi'in, ou que ce soit atba' al-tabi'in, ou qu'il fasse partie, comme on le dit ici, des imams des écoles de pensée, comme les quatre écoles de pensée, ou les quatre imams des écoles de pensée, comme tout le monde connaît. Donc ça rentre en fait dedans, ça rentre en fait dans le conseil pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc mettre en avant la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur chaque, ou par rapport à tout autre avis, ou toute autre parole. C'est le mettre en avant aussi par rapport à son argent, par rapport à ses enfants, et par rapport aussi à ses droits. Et en fait, par rapport à ça, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est connu. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي ووالدي. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que la personne ne croit pas tant qu'elle n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que ses parents et plus que ses enfants. Donc là on voit en fait que par rapport à l'amour, on doit faire précéder l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur toute autre chose, même ce qui nous est le plus cher. Et comme dans l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne par rapport à ses parents et par rapport à ses enfants. C'est aussi le suivre, comme le dit le Cheikh rahimallahu ta'ala, c'est le suivre dans tout ce qui concerne les bases de la religion ainsi que les branches de cette religion, c'est-à-dire al-usul wa al-furu'a. Al-usul wa al-furu'a. Donc, le musulman, pour qu'il soit sincère envers son accomplissement par rapport au devoir envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes les bases de la religion. Tout ce qui est en relation avec les bases de la religion et tout ce qui est en relation avec les branches de cette religion. Al-usul wa al-furu'a. Et il nous dit aussi, et ça c'est un point essentiel également, c'est s'efforcer de suivre sa sunnah, que ça soit yani zahira, de manière ou sous un aspect extérieur, ou batina, sous un aspect qui est, on va dire, intérieur, caché. C'est-à-dire qu'on doit s'efforcer de suivre cette sunnah sous tous les aspects. Et ça c'est un point essentiel par rapport à tamassou bi sunnah, c'est-à-dire par rapport au fait de s'accrocher à la sunnah. Et ça rentre en fait dans le devoir que l'on doit avoir envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'on doit accomplir envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça rentre dans le conseil pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite le chien nous dit donner la victoire à sa religion, c'est aussi donner la victoire à sa religion. Et ça en fait, lorsque le chien rahimallah le cite en dernière partie, pourquoi? Parce que la personne, si elle n'accomplit pas les choses qu'ils ont précédées, si la personne n'aime pas le prophète plus que soi-même et plus que ses parents, plus que ses enfants, et si elle ne fait pas prévaloir la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à ses paroles, quant à son amour, quant à ses droits sur toute autre chose, et qu'elle ne suit pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit, comment va-t-elle en fait prétendre à donner la victoire à sa religion? Comment va-t-elle prétendre à donner la victoire à la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc avant d'avoir l'intention de donner la victoire à sa religion et de faire toute chose dans sa possibilité pour donner la victoire à sa religion, il faut dans un premier temps aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avoir foi en lui et le faire prévaloir de par sa personne sur n'importe quelle autre personne, et pratiquer sa sunnah. Et comme le dit le shir, que la pratiquer, que ce soit en extérieur ou que ce soit en intérieur, c'est-à-dire la sunnah qui est considérée comme extérieure et la sunnah qui est considérée comme intérieure. Li rasouli. Ensuite il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam wali a'immati al-muslimin, c'est-à-dire le conseil pour les dirigeants ou pour les imams, ceux en fait qui dirigent les musulmans. Donc en fait, comme il dit le shir rahimallahu ta'ala, ce sont les gouvernements des musulmans, que ce soit un imam ou bien que ce soit un émir ou bien que ce soit un juge, al-qadi, yani tous ceux qui possèdent un pouvoir ou qui possèdent une autorité, le musulman, pour accomplir le devoir envers ces gens-là, il doit en fait, et c'est là que le chien en fait va nous expliquer, il doit dans un premier temps avoir la croyance de leur autorité. Donc le fait d'obéir aux imams des musulmans ou au gouvernement des musulmans, ça fait partie aussi, ça rentre en fait dans la croyance, comme nous dit le shir. C'est reconnaître leur autorité, c'est-à-dire l'autorité qu'ils ont par rapport aux musulmans, que ce soit, comme il dit le shir, que ce soit par rapport l'imam, c'est-à-dire celui qui est à la tête du gouvernement, ou bien que ce soit des émirs, c'est-à-dire ceux qui sont en dessous de l'imam, du grand imam ou de celui qui est à la tête du gouvernement, et que ce soit aussi des juges. Ceux en fait qui jugent par rapport à Al-Qubat, ceux qui jugent par rapport aux hommes. Donc il nous dit, nous devons croire en leur autorité. Ça c'est la première chose qui rentre dans le conseil pour les dirigeants, c'est croire en leur autorité. Donc c'est une question de croyance. Ensuite il nous dit, c'est les écouter et leur obéir. C'est-à-dire qu'on doit les écouter dans un premier temps, écouter ce qu'ils nous donnent comme ordre et comme conseil, et ensuite suivre ses ordres et suivre en fait ses conseils. Ensuite il nous dit également le shir rahimallahu ta'ala, c'est encourager les gens à cela, c'est-à-dire qu'il est du devoir de chaque musulman d'encourager les gens qui sont autour de lui d'obéir, d'écouter, d'obéir au gouvernement. afin qu'il advienne dans la société l'unité. Ensuite, il dit aussi, c'est essayer, suivant notre capacité, de les guider, de leur indiquer le droit chemin et tout ce qui leur profite, et profite aux gens également, ainsi que leur indiquer ce qui leur est obligatoire. Donc en fait, c'est le rôle aussi des musulmans, et plus particulièrement des gens de la science, des gens qui connaissent en fait la religion comme il se doit. Donc ce qui est obligatoire par rapport à eux, et ce qui fait même ce qui rentre dans leur conseil, c'est-à-dire le devoir qu'ils doivent accomplir, que l'on doit accomplir par rapport aux dirigeants, c'est en fait leur indiquer le droit chemin. Leur indiquer le droit chemin avec science. Et les encourager à suivre ce droit chemin. Et donc leur indiquer également tout ce qui est obligatoire envers eux. C'est-à-dire tout ce qui est obligatoire envers tout ce qui leur est obligatoire envers Allah Azza wa Jal et envers ses serviteurs, les serviteurs d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire les hommes. Donc ça rentre en fait dans le conseil pour les dirigeants. Et ensuite, le dernier devoir et le dernier conseil, donc ça sera le cinquième, c'est le conseil pour l'ensemble des musulmans. Le conseil pour l'ensemble des musulmans. Les ammatil muslimin. Donc il nous dit le shir, qu'est-ce qui rentre dans ce devoir? C'est aimer pour eux ce que l'on aime pour soi-même. C'est aimer pour eux ce que l'on aime pour soi-même. Et en fait, le shir, il fait allusion à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Yaqul al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. C'est-à-dire que personne ne croira sans qu'il aime, jusqu'à qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc ça, en fait, ça fait partie du conseil que l'on doit avoir par rapport à l'ensemble des musulmans, ou le devoir que l'on doit avoir et que l'on doit accomplir par rapport aux musulmans, à l'ensemble des musulmans, aimer pour eux ce que l'on aime pour soi-même, et donc détester pour eux ce que l'on déteste pour soi-même. Et il doit également, suivant sa capacité, concrétiser cela. Car, comme il nous dit le shir, si tu aimes une personne, si une personne est chère à tes yeux, que ce soit par exemple ton enfant, ou que ce soit par exemple tes parents, ou que ce soit un ami proche que tu aimes sincèrement, si cette personne tu l'aimes réellement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de concrétiser en fait cette aide. C'est-à-dire tu vas essayer de concrétiser, c'est-à-dire lui donner ce que toi tu aimes pour toi-même, et essayer de l'écarter de ce que toi tu détestes pour toi-même. Donc ça, ça rentre en fait dans le conseil pour l'ensemble des musulmans. Et ensuite, le shir, il nous dit à la fin de l'explication de ce hadith, il dit en fait que ces quelques mots que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, donc jawami al-kalim, il ne faut pas oublier qu'on est toujours dans des hadiths dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, et qui en fait comportent peu de mots, mais qui veulent dire beaucoup de significations, qui englobent en fait des significations qui sont vastes. Et c'est ça en fait, comme on l'avait expliqué précédemment, ce qu'on appelle jawami al-kalim. Donc on voit par rapport à ça que le peu de mots que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a employé dans ce hadith englobe en fait toute la religion. Yashmal ad-din kulla. Et donc en fait, c'est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été donné cette capacité de pouvoir dire quelques mots, quelques phrases, et de par là vouloir dire beaucoup de signification. Donc ça en fait c'est Marna Jawamir al-Kalim, et c'est en fait un autre exemple que le shir nous apporte par rapport à ce troisième hadith. Simplement une petite remarque à faire, c'est dans les hadiths qu'on a cité en fait deux hadiths, la yu'minu ahadukum, c'est-à-dire personne ne croit, par rapport à ça, les savants disent que cette foi-là, c'est une foi en fait qui va être considérée comme complète. C'est-à-dire la personne qui veut avoir une foi complète, imanun kamil, il doit en fait appliquer ces choses-là. C'est-à-dire comme le dernier exemple que l'on a donné, c'est aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc ça en fait, ça fait partie de la foi qui va être considérée comme complète, une foi totale. Et donc, ça ne veut pas dire que la personne qui ne va pas accomplir ce devoir-là ou qui ne va pas accomplir ce point-là par rapport à son frère, qu'il ne va pas avoir de iman, qu'il ne va pas avoir de foi. Et ça, en fait, ça revient au cours de tawhid que l'on a donné par rapport à l'iman, sachant que l'iman, elle baisse, et l'iman, si à la foi, elle augmente. Elle baisse, elle augmente. Et elle augmente pour atteindre un degré qui est considéré par rapport à l'homme, bien sûr, complet.